que tu prennes avec moi ta Bible. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 7. Comme je l'ai dit au premier culte, je ressens ce matin, dans mon esprit, une extraordinaire atmosphère de foi. Et je dis encore, ce matin, tout est possible. J'ai dit encore ce matin, tout est possible. Amen. Quand il y a des atmosphères comme ça, il faut en profiter. Amen. Pour appeler à l'existence les choses qui ont tardé à être. Même celles qui ne sont pas, il faut les appeler. Parce que par la foi, tout est possible. Dis à ton voisin, je fais le choix de ne pas sortir ici étant la même personne. Ah, déclare sur ta vie, je crois que ce jour, je verrai la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie. Alléluia. Lisons Hébreux. Du moins, suivez la lecture. Hébreux 7, 11 à 19. Je vais lire. Si dans la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur Jésus est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît en notre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Éternel mon Père, Éternel, mon Dieu, je veux te rendre grâce pour toutes les personnes qui écoutent le son de ma voix ce matin. Je sais que cet enseignement est très profond et que personne ne peut avoir accès à cette vérité s'il ou si elle n'est pas éclairé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, ô Père, je mets cette demande au devant de ton trône afin que la révélation de ta parole nous soit accordée et que chaque personne vivant sous cette dispensation de la grâce saisisse la pensée de Dieu pour cette saison. Afin, ô Dieu, que ceux qui étaient ensorcelés soient délivrés, ceux qui étaient envoûtés soient libérés, et que le mensonge soit dissipé, et que la vérité s'installe par la puissance de la lumière. Merci pour la grâce qui m'est accordée d'enseigner ta parole avec des mots simples, des illustrations adéquates, des témoignages précis, pour que la liberté ne soit pas un slogan, mais une évidence au milieu de nous. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié, et que quelqu'un dise Amen trois fois. Amen. 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 On va s'asseoir dans sa merveilleuse présence. En 4 jours, je me suis donc lancé le défi personnel, par instruction du Seigneur, de parcourir le thème que j'ai intitulé « Au-delà de la loi ». Vous savez que depuis la nuit des temps, dès le commencement, les rapports de l'homme avec Dieu, ou que dis-je, Dieu avec les hommes, a connu une certaine forme d'évolution. Pas parce que Dieu change, mais non, mais parce que les cœurs des hommes vis-à-vis de Dieu ont évolué, souvent négativement, positivement, selon les dispensations. Et cela a chamboulé, changé, perturbé les rapports de Dieu avec les hommes. Nous avons vu que dès le commencement, dans le jardin d'Éden, quand Dieu crée l'homme, il a créé l'homme avec l'intention pour que l'homme règne. C'était le but de Dieu. C'était le règne de Dieu. Dieu voulait que l'homme règne sur la terre, que son règne soit visible au travers de l'homme. Nous avons vu que la femme et l'homme, Ève et Adam, ont péché contre Dieu et cela a totalement changé les choses. Satan est devenu le Dieu de ce monde. Mais nous avons aussi vu que dans cette dispensation de l'innocence, vous voyez, le plan parfait de Dieu à l'égard de l'homme était celui du règne. Dieu voulait que l'homme règne. Dit, je règnerai. Encore, je règnerai. Maintenant, suivez-moi bien. Donc, quand l'homme a péché, nous l'avons déjà vu, et l'homme a été conscient de sa nudité. Donc, on a quitté la dispensation de l'innocence vers celle de la conscience. Mais dans la dispensation de la conscience, quelque chose va se passer. Dieu dira au serpent, la sémence de la femme écrasera ta tête. Mais moi, vous voyez toi, mais toi tu lui mordras le talon. Donc il lance un défi au serpent. Mais derrière le serpent, il parle à toute la puissance qu'incarnait ou représentait le serpent. Il parle au royaume des ténèbres. Il parle à Satan et tous ses démons, disant, la sémence ou la postérité de la femme écrasera ta tête. C'est ainsi que plus tard, il va trouver en Noé la personne au travers de laquelle il peut avoir de l'espérance pour voir son projet, son plan et ses buts atteints sur la terre. Noé va sauver sa génération par la foi en construisant l'arche. Ce que la Bible appelle ça un acte de foi extrême. Et après Noé, Dieu va regarder sur la terre et va trouver un homme qui était dans la maison de Tirach, adorateur d'idoles, appelé Abraham, qu'il va choisir. Pourquoi? Parce que certainement il a trouvé en Abraham des prédispositions favorables à l'accomplissement des desseins et du règne de Dieu sur la terre. Et comme Abraham est appelé aujourd'hui le père de la foi pour les croyants, nous allons nous attarder un peu sur la vie d'Abraham pendant ce message pour voir qu'est-ce qu'Abraham a pu bien faire pour que le ciel soit obligé aujourd'hui de nous bénir à cause de lui. Il a vécu dans la dispensation de la promesse. Après cette connexion de Dieu avec Abraham, Dieu dira à Abraham, tes descendants seront captifs en Égypte pendant 400 ans. Et il dit, après, je vais les libérer. Pourquoi? Parce que quand il a béni Abraham, il a dit, je ferai de toi une grande nation. Mais il a aussi dit, toutes les familles de la terre seront bénies après toi. Donc la grande nation, c'était la postérité d'Abraham dans sa chair. Les descendants d'Abraham dans la chair. Qui plus tard ont fondé la nation d'Israël, d'esclaves qu'ils étaient en Égypte, plus principalement à Goshen. Alors, quand ils sortent d'Égypte, par la main puissante et le bras étendu de Dieu, Dieu ouvre la mer Rouge. Il les fait traverser, comme à sec. Il fait descendre la manne et la caille d'en haut. Il fait jaillir l'eau du rocher. Et plus tard, il appelle Moïse sur le mont Sinaï et lui donne les 12 commandements de la loi. Mais vous voyez, ce Dieu qui apparaît à Moïse, dans un de ses attributs, ouais, moraux, fort, qui est la sainteté. Et il dit à Moïse, Moïse, ôte tes souliers, car l'endroit où tu te tiens est un endroit saint. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des églises bâties sur ce verset biblique. Ôte tes souliers. L'Ancien Testament peut causer de sérieux dégâts. Ôte tes souliers. Et donc, vous voyez, dans l'Ancien Testament, environ 830 fois, le mot saint apparaît. Saint, c'est d'ailleurs même le tabernacle, est l'illustration du symbole de la sainteté. Lieu saint, lieu très saint. Donc Dieu se fait connaître comme mon Dieu saint. Mais à cause de la dureté des cœurs des hommes, et de la grande sainteté de Dieu, parce que ça fait partie de son immaculée conception, la sainteté. Alors, les hommes vont réaliser le gap, la frontière qui les sépare avec Dieu. Donc, le cœur devient endurci. Et Dieu établit la loi. Pourquoi il établit la loi? Est-ce qu'il veut punir le peuple? Non! Les hommes sont devenus tellement rebelles qu'il est obligé de mettre un pédagogue, un précepteur, quelqu'un qui sera avec eux tous les jours pour les obliger à faire ce que Dieu attend d'eux, qu'ils le veulent ou non. C'était ça la loi. Au point où, si tu étais coupable de la loi, contre la loi se retournait contre toi. Clairement, il n'y avait pas de pardon dans la loi. D'accord? Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va comparer la loi à ce précepteur qui, dans, au niveau de l'Empire romain, était ses esclaves, qui venaient conduire les enfants à l'école jusqu'à ce qu'ils atteignent leur majorité. Ils étaient tellement sévères que quand l'enfant atteignait la majorité, il avait comme l'impression qu'il était libéré. Donc il compare justement la loi à ce précepteur, à ce pédagogue qui est là pour aider l'enfant dans la discipline. Sauf que ce que l'enfant fait sous l'impulsion de la chicotte ou du fouet n'est pas toujours la volonté de son cœur. Donc la loi n'avait pas la capacité de révéler le cœur de l'homme, mais plutôt l'action de l'homme. Et mon action peut être opposée à mon cœur. C'est pourquoi, quand Jésus arrive et qu'on lui pose le commandement en disant, mais la question, mais quel est donc le plus grand commandement de la loi? Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Donc, il touche le cœur et sort plutôt de la notion de l'apparence à la notion de la profondeur, à l'intérieur, dans le cœur. Vous voyez, la loi traite des questions de surface, alors que la foi traite des questions profondes. De l'intérieur, là où les yeux de personne ne voient. Vous voyez? Et c'est ça qui est important. Alors, la sainteté de Dieu fait que dans son immensité, dans sa pureté, Dieu ne s'accommode pas au péché. La Bible dit que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Donc, Dieu est tellement saint qu'il n'y a pas, possibilité pour lui de s'accommoder avec l'impureté. Alors, la loi devient extrêmement difficile. Et la loi va demander continuellement des sacrifices, des taureaux, des boucs, des tourterelles, des pigeons, pour les actions posées afin de couvrir le péché. Mais, ce qu'il y a d'important à comprendre, suivez-moi bien, c'est que la sainteté de Dieu exigea des hommes. Les hommes ne pouvaient pas le donner à Dieu, alors Dieu s'est senti obligé de satisfaire sa sainteté par sa bonté et son amour. C'est ainsi que lui-même va trouver le moyen d'envoyer son propre fils comme sacrifice à la croix pour que par son sang, les hommes soient sauvés et que personne n'ait accès au royaume par ses œuvres, mais plutôt par la foi au sacrifice donné à la croix pour sa vie. Vous voyez? Dis après moi le don gratuit. Encore le don gratuit. Vous voyez, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu comme il le demande dans toute la profondeur si vous n'avez pas la révélation de sa bonté. La bonté de Dieu. La révélation de sa bonté. Vous voyez, c'est très important de le comprendre. L'amour de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Ça, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, en qui? En son Fils. Pas à la loi, mais en son Fils, ne périsse point. Pourquoi? Parce que la loi n'avait pas la capacité de nous délivrer de la mort. Et le Fils est venu nous sortir de l'oppression de la loi pour nous amener à la grâce. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes, au lieu de s'attarder sur cette action, restent scotchés sur la loi. On y revient. Revenons maintenant sur la personne de Jésus lui-même. Regardons Hébreux 7, versets 13 à 15. Il est écrit, « En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, donc aucun membre n'a fait le service sur l'autel. » Ça veut dire, suivez-moi bien, que Jésus n'est pas descendant de la tribu de Lévi. Et la tribu de Lévi, dans l'Ancien Testament, était la tribu qui avait le droit au service sur l'autel. Donc logiquement, si la loi était si importante pour Dieu, c'est de Lévi que devait sortir le Messie. Mais comme Dieu n'a pas voulu que soit attribué à la loi, ne serait-ce qu'un seul fragment de la grâce, il a dépassé la tribu de Lévi et est allé chercher l'héritier de la tribu de Juda. Où il n'y avait aucune mention concernant le sacerdoce. Donc Jésus va naître de la tribu de Juda. Et la Bible dit, cela devient donc plus évident encore, car il paraît en notre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Donc il apparaît comme un sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Vous voyez donc, ça devient évident que Jésus n'est pas descendu de Lévi. Vous voyez, il ne descend pas de la tribu de Lévi, mais de Juda. Il descend de Juda. Maintenant, suivez-moi bien. Vous savez, souvent vous prenez la Bible. Moi, ça m'est arrivé jusqu'à ce qu'un jour Dieu me dise, pourquoi tu sautes ce chapitre? Chaque fois que je prenais la Bible, je tombais sur Matthieu 1, je sautais. Matthieu 1, je réagis directement à Matthieu 2. Parce qu'on dit généralité, je dis, bon, je saute tout ça, je comprends rien. Un jour, je me dis, non, ne saute pas. Arrête-toi, je vais te parler. Et j'ai tourné ma Bible, comme je te demande de le faire ce matin. OK, dans Matthieu 1. D'accord? Ne saute pas. Dis à ton voisin, ne saute pas cette fois. Très bien. Regardons quelque chose dans Matthieu 1. OK? Donc, regardons Matthieu 1. Vous allez dire Matthieu 1. Ça va? Regardons verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Généalogie de qui? Jésus-Christ. De qui est-il le fils? Fils de qui? Et après de qui? Mais qui était David en fait? Qui était David? David était un grand roi, n'est-ce pas? Alors, on aime bien, David était un grand roi. Mais il était quel type de roi? Il était le roi de qui Dieu a dit, ne construis pas ma maison parce que tes mains sont souillées. Tu as versé tellement de sang que je préfère que ce soit ton fils. Ne touche pas la maison de l'Éternel. Dieu a dit de lui. Il a tué son meilleur ami. Meilleur soldat. Après avoir couché avec sa femme. Un gars pareil devait être brûlé vif. Selon la loi, on est d'accord là-dessus. Parce que, en fait, écoutez-moi très bien, non seulement il a pris la femme du gars, mais ensuite, il a tué le gars qui se battait pour les causes de sa royauté. C'est criminel. Mais Dieu dira de cet homme, David, plus tard, c'est un homme selon mon cœur. Comme si Dieu avait un problème. Est-ce que vous me comprenez? Ensuite, laissons David de côté, allons-y sur Abraham. Abraham a vendu sa femme pour l'argent, le prosélytisme. Aujourd'hui, il y a des grands procès à cause de ça. Abraham devait être traduit en justice pour prosélytisme. Il a donné sa femme pour prendre l'argent. Deux fois de suite. Le ciel a intervenu. Mais la Bible dit, Jésus est fils de David, fils de... Comme si la grâce devait choisir un chemin qui ne ressemble à rien à ce que la loi prescrit. Continuons. Verset 2, Abraham engendra Isaac, c'est parfait. Isaac engendra Jacob, c'est bon. Jacob engendra Judas et ses frères. Mais quand vous arrivez encore sur Jacob, ce gars, même dans le ventre de sa mère, il a saisi le talon de son frère. OK, Judas engendra de Tamar, Phares et Zara. Mais Tamar était une cananéenne. Une cananéenne qui a joué le rôle de prostituée. Pour avoir des rapports avec Judas. Elle s'est maquillée comme une prostituée et a eu des rapports avec cet homme, Judas. Et c'est de là que sont venus les enfants en question. Est-ce que vous me comprenez? Donc, est-ce que vous pensez que Dieu n'était pas assez puissant pour tuer ses enfants et dire, je n'en veux pas? Mais pourquoi est-ce qu'il laisse? Et non simplement il laisse, il en fait des arrière-grands-pères de Jésus. Continuons. Phares engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra de Boaz. Engendra Boaz de Rahab. Il engendra qui? Boaz de Rahab. Eh bien, mesdames et messieurs, Rahab était une prostituée. Elle vendait son corps matin, midi et soir à la passe. Est-ce que vous comprenez? Juste pour vivre. Condamnée par la loi de Moïse, elle a accueilli dans sa maison les espions. Alors que tout le monde dans la ville ne voulait pas la présence des espions dans sa maison. Une fois dans la maison, Dieu a oublié son métier d'avant. Je ne sais pas si vous comprenez. Et il dit, vous laissez simplement à la fenêtre un fil rouge. Quand on le verra, quand on entrera, ce fil rouge, c'est-à-dire la précursion, c'est-à-dire le fil prophétique qui annonçait que quand le sang allait venir sur une maison, quel... Oh là là, t'as pas compris de quoi je parle. Ce n'est pas les fils rouges qu'on attend dans ton village, là. Ça, c'est les fils rouges de la sorcellerie. Je parle du fil rouge de l'ancienne alliance qui était le symbole du sang. Quand on viendra, on n'entrera pas chez toi. On saura qu'à cause de tes actions posées. Et non seulement Rahab n'a pas été tué, mais Rahab est devenu l'ancêtre de Jésus. Car, et puis Boaz engendra Obed de Ruth, Obed Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon. Ça c'est parfait. Mais ce que la Bible ajoute là, c'est pas bon. De la femme du riz. Je ne sais pas si vous comprenez. David engendra Salomon, c'est parfait. Mais de la femme du riz, on doit avoir un problème avec ça. Oh, écoutez, la femme a trompé son mari. Vrai ou faux? S'il te plaît, réponds-moi. Souvent, les gens qui ne parlent pas, c'est eux qui font les mêmes choses. Donc, il faut dire. Vrai ou faux? C'est ce qui est écrit, d'accord? N'aidez pas être Dieu à être Dieu. Il s'appelle El Shaddai. Celui qui n'a besoin de personne d'autre pour être ce qu'il est. Quelqu'un dise Amen. Arrêtez-moi cet esprit pharisianique et religieux qui tend à faire croire que parce qu'on a commis une erreur, on est une erreur. Non! Je dis encore non! L'erreur dans la vie d'un enfant de destinée est une bonne opportunité pour révéler l'amour et la grandeur de Dieu. Quelqu'un dise Amen! Alléluia! Amen! Tu étais prostitué, je s'en fous. Voleur, il s'en fout. Brigand, il s'en fout. Quand le sang est passé, le passé est dépassé. Oh pasteur, j'arrive pas. J'arrive plus à sentir la présence de Dieu. Quand je prie, je me rends compte qu'il n'y a plus la présence. Non, on ne sent pas sa présence. On croit sa présence. On a trop de religieux. Ben, est-ce que tu penses que Dieu peut se servir d'une personne comme ça? J'ai comme l'impression que Dieu a pris un plaisir immense à laisser les hommes, voyez, passer par la boue pour ensuite les chercher, les amener dans son royaume pour qu'ils n'apprécient plus la grandeur de Dieu que leurs propres efforts. De la femme du riz. De la femme. Ma Bible ne dit-elle pas que toute chose compte pour le bien de ceux qui... Oh, citez-moi ce verset. Et qui sont appelés selon ces... Laisse-moi te dire qu'il n'y a aucune erreur commise sur la terre par quelqu'un de destiné qui est là pour l'emporter. Ce n'est pas possible. Même ton erreur révèle la grandeur. Aussi longtemps que ton cœur est attaché à Dieu. Aujourd'hui, les gens veulent avoir le mérite des grâces. Je suis à l'église depuis 15 ans. alors je dois avoir telle dimension de bénédiction. Je suis là depuis 25 ans, je dois avoir ci. Bien aimé, c'est une grosse erreur. Le vrai problème de notre dispensation, c'est que les gens ont fait de l'église ce que l'église n'est pas. L'église n'est pas un endroit où toi et moi devons rester 7 jours sur 7. Non. L'église, c'est toi-même. Dieu t'a conçu pour montrer au monde de quoi tu es capable. Oh, donne-moi un bon amen. Bien aimé, si Dieu ne peut pas te pardonner, où est son amour? Les pasteurs ne te pardonneront pas, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas pardonné. Tes voisins ne vont pas te pardonner, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas pardonné. Tes amis ne vont pas te pardonner, ça ne veut pas dire que Dieu t'a pardonné, ne t'a pas pardonné. Non, non du tout. Ce sont les hommes qui lapident, mais Dieu pardonne. Laissez-moi parler un tout petit peu des lapideurs. Je me suis rendu compte, en étudiant la parole et en causant avec Dieu, que ceux qui lapident, sont des gros pécheurs. Chaque fois que vous voyez un homme prêcher sur le péché 24 heures sur 24 sur un pécheur. Écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. Je vous dis, chaque fois que vous voyez un homme, matin, péché, midi, péché, soir, péché, c'est un péché. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bien d'en parler, mais si ça devient votre seul message, et que tous les jours, vous êtes toujours en train de dire, oh, il a fait ci, oh, il a fait ça. C'est que quelque part en vous n'habite pas la justice. Vous ne pouvez pas avoir été gracié et continuer de condamner. J'ai dit un jour à un pasteur, j'ai dit, vous commettez une grave erreur. Laissez le soin aux hommes d'avoir leur histoire avec Dieu. Si David était dans vos églises, vous l'aurez excommunié alors qu'il était l'ancêtre de Jésus-Christ. Alléluia! Est-ce que vous me comprenez? Il faut que les gens comprennent. Et on revient dans la loi sans s'en rendre compte. Alors la grâce a été donnée. Bien-aimé, on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Personne n'a accès au salut par son propre mérite. La Bible dit, ta propre justice est semblable à un vêtement souillé. Un pasteur qui semblait montrer qu'il était le plus grand pasteur, un jour se tient sur sa chair et dit, moi dans tous les cas, on ne m'a jamais accusé de faire telle chose. Et moi je lui ai dit, attention à toi, si on ne t'a jamais accusé, il est probable que tu n'es pas avec nous. Parce que souvent ça paraît spirituel, hein, mais alors que c'est de l'orgueil. La Bible dit, malheur à vous lorsqu'on ne dira que du bien. Si on a fait ça au bois vert, on en fera au bois sec. Donc si on ne fait pas ça de toi, il est probable que tu n'es pas. Ça n'a pas loupé quelques temps après, pouf, vidéo. C'est un sorcier. J'ai dit, allô, comment tu vas? Bienvenue dans le royaume. Est-ce que vous me comprenez? Le royaume, ce n'est pas ribobo, sikara, donner une apparence, montrer je suis le grand, je suis si. Non, bien ami, c'est la grâce. Quelqu'un dise grâce. Quelqu'un dise grâce. Quelqu'un dise grâce. Je n'ai passé aucun concours pour que Jésus me cherche. Je bénis Dieu tous les jours de ce que j'avais refusé l'église avant Jésus. Beaucoup de personnes qui sont allées à l'église avant d'avoir rencontré Jésus ont pollué leur destinée. Parce que l'église est pleine de mensonges. C'est quand tu rencontres Jésus que tu comprends la liberté. La vraie liberté que la loi n'est pas capable de donner. Alléluia. Dis, je suis sauvé par la foi. Pour continuer de vivre par la foi. Est-ce que vous savez que la foi ne tolère aucune œuvre de la loi? La foi ne tolère aucune œuvre de la loi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et les gens qui réveillent la loi, le réveillent pour leurs propres intérêts. On y arrive. Galates 3, 11 dit que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Donc personne par la loi ne peut être justifié. Cela est évident. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Qu'est-ce que c'est vivre par la foi? C'est avoir confiance en Dieu. Maintenant, revenez ici, s'il vous plaît. C'est souvent qu'on parle de foi. J'écoute des gens parler de foi. Souvent, ça me fait mal au cœur parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est que la foi. La femme qui commet un péché, qui vit par la foi, qu'est-ce que la foi attend d'elle? Qu'elle commence à dire, Dieu donne-moi une maison? Non. Qu'est-ce que la foi attend d'elle? Qu'elle croit que Dieu est capable de la relever. Celui qui est malade, qu'est-ce que la foi attend de lui? Qu'il croit qu'il est capable d'être guéri par Dieu. Celui qui est pauvre, qu'est-ce que la foi attend de lui? Qu'il croit en la richesse. Ouais. Celui qui n'a pas de job, qu'est-ce que la foi attend de lui? Qu'il croit à un travail. Maintenant, la foi ne te dicte pas ce que toi tu reçois. Mais toi tu dictes par la foi au ciel ce que tu commandes. Donc c'est ta foi qui passe la commande et le ciel envoie ce que ta foi a ordonné. C'est pour ça qu'il dit, vous voyez, Jésus pose la question, mais est-ce que quand je reviendrai sur la terre, je trouverai encore la foi? Dans Luc 18, verset 8. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance à faire un retour dans la loi. Vous voyez, la loi, c'est la condamnation. Oh femme, assieds-toi. Oh ta femme, ta place est à la cuisine. Non, femme, tu ne parles pas trop. Oh femme, tu n'as pas travaillé. Oh femme, tu... ça c'est la loi. La grâce dit non. Ni homme, ni femme. Chacun est libéré. Vous voyez, la grâce ne tient pas compte de ta petite tête qui a été phagocytée et empoisonnée. C'est pour ça que quand la foi, la grâce s'est révélée, la première personne qui l'a annoncée était une femme. Pourquoi? Parce que Dieu voulait montrer au monde que les choses avaient changé. Et que la loi était tombée. Et que c'était terminé. Elle était devenue silencieuse. Lève ta main droite, dis, je saisis la foi. Encore, je saisis la foi. Laissez-moi vous dire ceci. Bien-aimé, même si le monde entier se mettait ensemble pour dire Wafo va échouer, je réussirai contre le monde. Il n'y a aucune personne sur la terre, aucune personne. Aucune personne. Que les gens ne te fassent pas croire. Vous comprenez que ta destinée est relâchée par le fait qu'ils sont contents ou fâchés contre toi. Ils n'ont qu'à se fâcher mille fois. Ils vont constituer le lot des ennemis qui sont placés en face. Ok, est-ce que tu comprends de quoi je parle? Vous devez comprendre ces choses. L'audace. Dis à ton voisin l'audace. J'ai dit à quelqu'un un jour, clairement ceci. Si le chemin du ciel passe par ta vie, j'irai en enfer. J'ai dit, si le ciel passe par toi, je vais en enfer. Qu'est-ce que ça voulait dire? Bien-aimé, je te montrerai que j'ai connu le véritable. Vous comprenez de quoi je parle? Ne vous laissez pas intimider. Le diable est subtil. C'est un menteur, il est mauvais. Ne vous laissez pas intimider. Hébreux 10, verset 38 dit, mon juste. Pas le juste des assemblées de Dieu, ou le juste du temple de la foi, ou le juste des méthodistes, non. Mon juste. Le juste de Dieu, pas de Raoul Wafo. Mon juste fera quoi? Vivra par la foi. Il y a des justes de l'église et il y a des justes de Dieu. De quel juste es-tu? De quel juste tu es? Il dit, mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Mon juste vivra par la foi et non par la loi. Horibo, Shriba. Oh, ça fait. Dieu me montre. Ouh là là. Le diable est mauvais. Oh, Dieu me montre. Il y a quelqu'un dans ta famille. En 625 avant Jésus-Christ. Il adorait les eaux. Il a planté quelque chose et c'est ça qui fait que ta vie n'est plus. Et puis la personne, je sens l'onction. C'est pas l'onction, je sens l'émotion. C'est pas l'onction. Non. Vous savez que souvent les gens disent, c'est pas toujours qu'ils ont grandi, c'est l'émotion. Vous n'avez pas vu les gens au concert et les gens ils tombent? Est-ce que c'est l'onction? Ils tombent d'émotion. C'est pas, non. Le problème n'est pas que je suis allé par terre. Mais qu'est-ce que je deviens quand je me lève? Qu'est-ce que ma destinée devient quand je me lève? C'est ça qui compte. Et les gens, dès qu'on commence à te voir avec une petite voiture à la fin du culte, il y a toujours des gars qui sont là, des légalistes ambulants. qui passe de communauté en communauté, il repère. Il vient te dire, Dieu m'a dit, il faut que je fasse une prière spéciale pour toi. Je dois venir prier chez toi à 23h15. Et puis tu sais, ne le dis à personne, ça, c'est une révélation personnelle. Et puis ça paraît bien. Vous savez, on est un peu fétichiste. Dans nos backgrounds, bantous. Et même en Amérique, partout, les gens aiment bien le fétichisme. Oh, j'arrive. Et on ne met que la lumière du devant. Cette lumière-là symbolise que Jésus est entré. Éteignez toutes les autres. Et puis on éteint. Toute la famille est là. Ok, mettez vos pieds dans une coupe, dans une bassine d'eau. Symbole de la part. Les gens sont là. Et puis on est là, on fait des prières. Et vous voyez des gens, ils sont allés à l'école, instruits. Ils sont. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que les gens peuvent être bernés par quelqu'un même qui a perdu ses repères? Il a perdu. Si effectivement il avait été visité, on aurait vu au moins un signe de la visite sur lui-même. Mais lui-même, pour y arriver, il a dû faire 3 escales pour venir chez toi. Et c'est, il est venu t'apporter la délivrance que lui-même n'a jamais obtenue. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Est-ce que vous êtes avec moi? Et les gens aiment ça. Ah non, 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 parce que faut ce que tu prêches là, nous on n'est pas d'accord avec ça. Comment tu peux être contre de ma édition ancestrale? Bien, mais je vous pose une question. Est-ce que c'est moi qui suis contre ou c'est Dieu qui est contre? La Bible dit si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues. Cela vient de qui vous a réconcilié avec lui par. Pourquoi quand vous avez accouché vos enfants, ils n'étaient pas d'abord des chats pour devenir des hommes après? Pourquoi vous voulez donc croire que quand Dieu donne naissance à un enfant, il devient d'abord un singe ou un petit démon pour devenir un enfant de Dieu après? Comme s'il était incapable, vous voyez, d'amener à manifestation la perfection. Comment vous voulez que l'imperfection soit engendrée par la perfection la plus élevée? Et on dit non, oh non, nous on croit en ça, oui. Le diable existe, oui. Mais il existe aussi dans les trucs bizarres comme ça. Je répète, ces doctrines sont diaboliques. Je reprends, ces doctrines sont diaboliques. Je mets à défi n'importe quel prédicateur de l'évangile sur la base de la parole à démontrer le contraire. J'ai reçu une révélation personnelle de Jésus-Christ. Je ne parle pas de Jésus, je n'ai pas vu, j'ai vu avec monsieur. Pas une fois, 3 fois. Je parle de la parole, ce n'est pas les histoires de bababa. Les gens font du bruit pour rien. C'est du vent, je parle de la parole de Dieu. Les gens viennent te dire, oh non, mon frère, tu sais, attention. Comment ils font? Ils sont rusés. Qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est ton argent. On va commencer, ça va toujours finir dans la poche. Oh, viens à mon église. Oh, il y a un homme de Dieu qui arrive. Il a une onction particulière. Et on m'a dit qu'il y a des gens qui arrivent, ils apportent des parfums. Oh, le parfum, il y a la gloire de Dieu dedans. Et puis les gens viennent, ils mettent leur tour, le parfum. J'ai dit, oh, oh my goodness. Si tu as goûté à ce genre de parfum, je te déparfume. Au nom puissant de Jésus, je t'enrobe de sa gloire. C'est la sorcellerie. C'est du fétichisme. C'est du brigandage. C'est de la truanterie. C'est incroyable. C'est des bandits en Christ. Mais les gens, l'apôtre Paul, il y a des gens là, si on remet l'apôtre Paul ici, sur la terre, il y a des gens qui auront affaire. Il dit, qui vous a ensorcelé? C'est pas moi, c'est l'apôtre qui vous a ensorcelé. Vous avez commencé avec Christ, comment vous voulez terminer dans la chair? Comment vous voulez oser terminer dedans? C'est comme mon monsieur, il venait voir un pasteur avec sa femme. Et il s'est rendu compte que la femme voyait clair. Et puis le monsieur ne voyait pas clair. Donc vous savez, quand vous regardez les gens, vous pouvez voir sur le visage s'ils croient ou pas. On pouvait voir celui qui croit en ce que vous faites ou pas. Même quand je suis dans la salle, je sens. Il y a des gens qui viennent souvent là. Aujourd'hui, là, je veux voir ce gars du Wafou. Il vient avec un visage. Et puis après 15 minutes, le visage. Après, quoi? Hey! Alléluia! Voilà. C'est progressif. Vous voyez, c'est au fur et à mesure. Donc, il a repéré que sur le visage de la femme, toutes les fois qu'il venait, la femme était fâchée. Et il s'est rendu compte donc que la femme allait être un problème pour le mari. Il appelle le mari en côté, vous dit, oh Dieu m'a fait une révélation, en fait, le vrai problème que vous avez, ta femme est sorcière. Et il a dit, bon, on va te faire des bains spéciaux. On va te laver avec de l'huile, des trucs comme ça. Donc, il est, voyez, il est l'huile sainte venue d'Israël. Quand on prend la bouteille comme ça, on a écrit de l'hébreu, de l'arabe dessus, il regarde, oulala, le pasteur me fait une bonne huile d'Israël. Mais ça, ça n'a rien à voir. Bonne huile d'Israël. Vous savez pas qu'en Israël, il y a les voleurs et les brigands, il y a les prostituées en Israël. C'est pas parce que moi, je prends l'huile de Mauritanien. Je prie dessus, je prie pour toi, la maladie s'envole, même sans huile. Ça n'a pas besoin de venir d'Israël. Mais pourquoi les gens font ça? Parce qu'ils sont en manque de révélation. Donc ils prennent, ils ont prêché 3 ans, ils sont fatigués. Il n'y a plus de message. Maintenant il faut s'entrer dans des choses compliquées pour commencer à alimenter l'église. Mais si tu n'arrives plus à prêcher, alimente-toi auprès de ceux qui ont la révélation. La foi ne tient pas compte de ton passé. J'ai dit la foi ne tient pas compte de ton passé. Jouis de la grâce, dis amen. J'ai dit jouis de la grâce, dis amen. Et vous savez, la grâce te donne de mériter ce que tu ne méritais pas. Les gens ne comprennent pas. Romains 5, verset 2, nous saisissons la foi, la grâce par la foi. Maintenant, miséricorde vient, d'accord? Grâce vient. Regardez bien. Dans l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que David parlait beaucoup de la miséricorde de Dieu. Oh, ta miséricorde, il y a toujours. Tu as créé les cieux et la terre. Oh, ta miséricorde, il y a toujours. Tu as fait traverser comme un sec. Oh, ta miséricorde, il y a toujours. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, la miséricorde a précédé la grâce. La miséricorde était avec la loi. Et la grâce est arrivée après. Mais les deux sont sœurs jumelles. Mais elle est sortie en premier. Qu'est-ce que la miséricorde fait? Elle triomphe du jugement. Elle te donne de ne pas mériter le jugement de Dieu. Et David, ayant été lui-même quelqu'un qui a vraiment offensé Dieu, a connu la miséricorde de Dieu. Et il en a beaucoup parlé parce qu'il en a été lui-même, il a rencontré. D'accord? Donc la miséricorde, quand Dieu veut faire quelque chose pour toi, et qu'il veut, par exemple, il dit, ok, que la grâce aille. Quand la grâce arrive, elle se rend compte que tu ne mérites pas ce que Dieu veut te donner. Elle s'arrête. Parce qu'il n'y a pas de pont. La miséricorde te dévance et va vers le croyant pour lui donner le pardon que le croyant nécessite. Et elle repart à sa place. Le chemin est libéré et la grâce vient par la suite. Mais la miséricorde pardonne et la grâce apporte. Donc la miséricorde suspend le jugement et libère le chemin et la grâce manifeste dans ta vie ce que tu attends. C'est pourquoi toutes les religions qui ne sont pas axées sur Christ, il n'y a pas de miséricorde. Dès qu'on t'a attrapé, on fait quelque chose, pouf, on te tue. Parce qu'il n'y a pas de miséricorde. C'est la miséricorde qui rend suspensif le jugement contre l'homme. Et qui permet que la grâce continue de couler. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Donc, quand vous avez compris ça, vous comprenez la dispensation dans laquelle on vit. C'est une dispensation de pure grâce de Dieu. D'accord? Depuis grâce. Est-ce que la grâce est un passeport pour le péché? Non. Non. Parce que la vie de Dieu qui est en nous, nous permet de vivre pour Dieu comme il le demande. Maintenant, je vais clore avec ceci. Suivez-moi très bien. Ça, c'est une partie très importante de l'enseignement. Dis à ton voisin, j'attache ma ceinture. Suivez-moi bien. Abraham est notre père, n'est-ce pas? Quels sont ceux qui ont cru en Jésus? Lève ta main. Très bien. Abraham est ton père, n'est-ce pas? Vous savez que si nous parlons d'Abraham, notre père, il est important de connaître ce qu'il a fait, qui fait qu'aujourd'hui, on peut parler de lui comme père. Pourquoi il est père? En 1997, j'étais en Sierra Leone. Et j'étais en train de prier. Je parle beaucoup en langue, beaucoup. Même quand je conduis, j'aime parler en langue. Je l'ai appris très tôt. Ça m'ouvrait l'intelligence divine. Et j'ai entendu le Seigneur me dire ceci. La première condition de pauvreté dans l'église, c'est l'enseignement sur la loi de la dîme. Et puis, ça va vraiment secouer. Et il a commencé à me montrer ce qui va suivre. Mais il m'a dit, ne l'enseigne pas maintenant. Parce que si tu l'enseignes maintenant, les gens ne vont pas le recevoir et ça peut causer des problèmes à ton ministère. Garde cet enseignement jusqu'à ce que je te donne le signal. Et tu l'enseigneras. Donc, j'ai commencé moi-même à partir de ce que Dieu m'avait montré, à étudier la Bible pour comprendre. Après, regardez, j'ai dit la dernière fois qu'il existe des lois. Il a existé des lois avant la loi. Vous avez bien compris? Il a existé des lois avant la loi. La loi de l'amour a existé avant la loi de Moïse. La loi du semer et de récolter a existé avant la loi de Moïse. D'accord? Et la loi de la foi a existé avant la loi de Moïse. Donc il y a des lois qui ont existé avant la loi. Alors, maintenant, quand vous vous rendez compte, quand Abraham va remporter la guerre contre le roi de Kedorlaomer, Melchisédek, roi de Salem, vient vers lui. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Il prend la dîme de tout ce qu'il avait et il remet à Melchisédek. Est-ce que Melchisédek était pressé de prendre? Il refuse. Mais regardez ce qu'Abraham et Abraham va dire. Genèse 14, verset 23. Je ne prenais rien de tout ce qui est à toi. Je ne prenais rien de tout ce qui est à toi. Je ne prenais rien de tout ce qui est à toi. Ça veut dire qu'Abraham reconnaît que dans le butin qu'il a amassé, il y a un dixième qui n'est pas à lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il n'a pas dit, prends ceci, je te donne ce qui est à moi. Non, il dit, je ne prenais rien de ce qui est à toi. Comment Abraham le sait? Comme Abraham était conduit par l'Esprit, il a reçu cet enseignement de Dieu. Qui lui disait, le dixième est à moi. Dans tout ce que vous faites. Plus tard, son fils, Jacob, va lui-même faire le vœu à Dieu de lui donner la dîme de tout. Genèse 28, verset 22. Mais, est-ce que la loi de Moïse existait déjà? Aidez-moi s'il vous plaît. Oui ou non? Quels sont ceux qui disent non? Que la loi de Moïse n'existait pas déjà? Quels sont ceux qui disent non? Alors, donc, tous ceux qui n'ont pas levé la main disent oui, alors. Il n'y a pas de piège. On était dans la dispensation de la promesse, dont il n'y avait pas encore de loi. Dont la loi de Moïse n'existait pas, mais les lois du ciel existaient. Parce qu'il faut comprendre que le ciel a ses lois, qui sont les lois du royaume des cieux. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui n'ont rien à voir avec les lois de Moïse. Et quand il va donner à Dieu à la dîme, à Melchisédek, est-ce que le nom d'Abraham va changer? Abraham continuera à s'appeler Abraham. Son nom ne change pas. Pourquoi? Parce que la dîme qu'il a donnée était la part qui appartenait à Dieu. Mais Dieu lui dira clairement, ok, Abraham, ne t'inquiète pas, ta récompense sera très grande. Pourquoi? Dieu lui le dit simplement parce que Abraham a posé un acte qui réjouit le cœur de Dieu. Ta récompense sera grande. Ta protection, ma protection sera avec toi. Je serai ton bouclier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous ne pouvez pas être loyal, fidèle dans ce principe et ne pas avoir la protection de Dieu. Une dame que je connais à l'époque au Cameroun était très fidèle dans ce principe. Et un jour, elle était en pleine ville, un camion a heurté de plein fouet sa voiture. Le camion s'est tordu, la voiture n'a même pas été égratignée. Pourquoi? Parce que cette dame était fidèle à Dieu. Et Dieu a choisi ce jour pour lui montrer la dimension de protection qui existe sur les personnes d'alliance. Et il peut même arriver que ta voiture était effectivement heurtée et qu'elle se soit même froissée. Et qu'une semaine après, il y a une percée financière qui t'apporte une restauration, sept fois plus que ce que tu as perdu. D'une manière ou d'une autre, le ciel se tient à l'égard de ceux qui sont fidèles. Donc, j'ai pas à pleurer. Oh ouais, papa, j'ai fait ci, mais j'ai pas vu. Non! Le vrai problème, c'est que quand je marche par la foi, je parle par la foi. Même si je ne vois pas, je continue de dire, je crois. Souvent, vous entendez une femme qui dit à son mari, chérie, je t'aime. C'est pas un langage vrai, c'est la foi. Mais c'est bien de parler par la foi qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Même si les sentiments sont là en voyage, je parle par la foi. On est des personnes de foi ou pas? Amen. Tu te sens un peu malade? Je suis en bonne santé. Si je demandais la vie à mon corps aujourd'hui, il m'a dit dès le matin, on a dormi environ 2 heures de temps, je suis fatigué, demande, reste à la maison aujourd'hui, repose-toi. J'ai dit, je suis en bonne santé, alléluia. J'ai levé la main à mon bureau, j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce pour la capacité que tu me donnes de prêcher aux 3 cultes avec la même énergie. Alléluia. C'est par la foi. Amen. C'est par la foi. C'est par la foi. Le vrai problème, c'est que vous étiez tellement vos émotions se mêler à l'histoire. C'est par la foi. Et j'aime Abraham. Il y perd. C'est vrai, hein? J'ai des problèmes dans mon foyer. Dieu lui dit, quel problème? Il dit, Éliezer de Damas sera mon héritier. Et tous les jours, ma femme en parle. Elle en parle parce qu'elle veut que l'argent là, qu'on a, ce soit nos enfants, pas les neveux. Dieu dit, ok Abraham, j'ai compris. Il dit, Abraham, ce ne sont pas eux. Non, 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 ce n'est pas eux. Viens Abraham, viens, viens. Viens. Regarde les étoiles. Telle sera ta postérité. Mais pourquoi, avant la dîme, Dieu n'a pas ouvert les yeux d'Abraham sur ses descendants? Parce que il y a des choses du ciel que vous n'aurez jamais tant que vous détenez certaines choses du ciel. Cette dimension de révélation n'était pas donnée à quelqu'un qui détenait par lui-même les choses qui appartiennent au ciel. Dès qu'il a lâché, paf, les yeux se sont ouverts. Et il était chez lui un jour, il voit Dieu qui vient pour... Et subitement, quand il arrive, il voit 3 hommes. Il dit, mais c'est pas croyable. Mais pourquoi est-ce que Abraham vivait de façon successive ce genre d'événement? Parce qu'il était intègre dans ce principe qui n'était pas une loi de la loi, mais une loi du ciel. Mais Abraham ne pouvait pas prétendre qu'avec 10%, il obtiendrait 100% de Dieu. Vous ne pouvez pas donner 10% à Dieu et attendre 100% de Dieu. Ce n'est pas possible. Il va vous mesurer à 10% pour faire descendre. La preuve. Quand Isaac est venu dans la maison d'Abraham, Isaac est venu chez Abraham comme la réponse à sa dîme. Est-ce qu'il avait promis à Abraham un fils? Répondez-moi. Il avait prévu combien? Mais avec la dîme, il ne pouvait pas avoir plusieurs. La dîme était trop petite pour que les plusieurs viennent. Il a d'abord fait venir un fils qui était le palier qui correspondait au 10e de ses revenus. Quand le fils est arrivé, alors Genèse 22, verset 1 dit, j'ai mis Abraham à l'épreuve en ces mots, donne-moi ton fils, ton unique. Ça veut dire là, tu as entre tes mains ce qui peut permettre que les autres choses viennent. Les gens disent, oh papa, il me restait mon dernier bénédicamine, je l'ai apporté à l'église, alléluia, père, tu as vu tout ce que j'avais, donne-moi les richesses. Donc, oui, parfait. Mais la veuve de Sarepta, aussi loyale et intègre qu'elle était, ayant donné un peu de farine et un peu d'huile, ne pouvait pas attendre du ciel des cargaisons d'huile. Dieu a été fidèle et lui a donné chaque jour une portion d'huile et de farine pour qu'elle mange. Pourquoi? Parce que le ciel ne fonctionne pas avec la pitié, mais le principe de foi. On te mesure avec la mesure dont tu t'es servi. Elle a mangé chaque jour un peu. Mais quand Salomon a donné 1000 holocaustes, le ciel a dû se déplacer pour aller chez lui. Pourquoi? La mesure était différente. Ce n'était plus la dîme. C'était le sacrifice. Et donc quand Abraham arrive sur la montagne avec son fils, maintenant Dieu dit, vous savez, ne soyez pas seulement dans l'extase et l'émotion, mettez Dieu dans l'extase. Oh, maintenant je vois que tu m'aimes, que tu me crains. Tu ne m'as pas refusé ton fils, Abraham. Vous voyez, Dieu, créateur de l'univers, est obligé de jurer en parlant à quelqu'un. Vous ne devez pas imaginer, est-ce que vous imaginez ce que c'est? Il dit, Abraham, j'aurais tant aimé que tu vives
15 millions d'années sur la terre pour voir tout ce que je vais faire, mais je te garantis, Abraham, écoute, laisse, tu vas te reposer avec les autres, mais je te jure par moi-même, il n'y a pas plus grand que moi, je signe ce décret, ta postérité, Abraham, possédera les portes de ses ennemis. En quelque sorte, tous les territoires qui sont rattachés à ta personne sous le ciel, tous ceux qui accepteront Jésus, ils vont posséder ces territoires et régner dans la vie. Dis, ça c'est mon partage. Dis, ça c'est ma portion. Alléluia. Amen. Je te le jure par moi-même. Aujourd'hui, vous entendez les gens dire, oh, si tu n'as pas de la dîme, Dieu va te frapper. Non. Ça n'a aucun sens. Vous voyez, souvent, les gens ne réfléchissent même pas. L'eau et l'argent appartient à Dieu. Tu n'as pas de la dîme, tu te frappes. Tu frappes pourquoi? Est-ce que Dieu est un mendiant? Ah! Mettez les carnets des dîmes là, mettez les carnets. Vous là, vous êtes dans cette église, vous les voleurs là. Qui n'a pas mis? J'ai déjà vu ça. Moi, j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai vu les choses. Est-ce que le nom de quoi Dieu m'a donné là? Est-ce que le nom de. Et on prend 50 minutes pour guetter dans les carnets qu'il a donné. Ça, c'est la loi. Parce que quand votre offrande est mentionnée sur la terre et que les hommes les approuvent, le ciel désapprouve. C'est quelque chose qui doit se passer entre le ciel et toi, par la foi, pas par la loi. Le ciel ne te frappera pas, mais tu te fermeras le ciel sur toi. Et la protection de Dieu ne sera pas ton partage. Ce n'est pas que le ciel t'a frappé, mais tu t'es toi-même frappé. Ce n'est pas le ciel. Non. Cessez de mentir sur le nom de mon Dieu. Vous comprenez de quoi je parle? Ce n'est pas le ciel qui te frappe. Et bien, les gens qui sont là, oh, je touche 1 million 101 000. Alors, comment je paye ma foi, ma dîme, et puis on prélève jusqu'au truc. Ah, papa, j'ai apporté ce que je te donne. Non, mais quand tu apportes la dîme et que tu donnes à Dieu, d'abord, tu ne la payes pas, tu la donnes. On ne paye pas la dîme, ce n'est pas une taxe ou un impôt. C'est ton acte de foi, je donne. Une fois que tu as donné à Dieu, tu n'as fait rien d'extraordinaire que de lui donner ce qui est à lui. Donc, tu ne peux pas venir dire à Dieu, je te fais des choses extraordinaires. Non, on est associé, j'ai 10% dans tes actions. Dans la société. Quand tu me donnes ma part, est-ce que tu as besoin de dire que tu vas donner quelque chose? C'est quand, avec ce qui reste, que maintenant je peux voir si tu m'aimes ou pas. C'est là où, quand Dieu a donné Isaac, il dit, maintenant je vais voir. Quand il a pris pour apporter, Dieu dit, waouh, là ce gars, il est allé loin. Il m'a donné tout ce qu'il a. Alors, je suis obligé en retour de lui donner tout ce que j'ai. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui le ciel ne t'accorde pas la plénitude de ce que tu demandes, Dieu sera en train de mentir à Abraham. Donc la seule chose qui peut empêcher le ciel, c'est que tu ne marches pas sur la terre comme Abraham a marché. Donc en ce moment, quand j'apporte à Dieu, je n'apporte pas dans l'esprit de la loi, mais j'apporte avec la dynamique de la foi. Ça change tout. Donc avant de venir, oh je lève ça vers le trône de l'Éternel, oh papa je te rends grâce. Au fond de mon cœur, c'est vrai, ah il y a des choses que je pourrais faire avec si, mais je fais le choix de te l'apporter. Je crois en ta fidélité. Père j'ai compris, 10% c'est trop peu pour moi, je vais plus loin. Papa il y a 10% pour toi, et il y a 5%, 10% pour moi. Prends ça papa, voici ce que je t'apporte. Et puis, papa, j'ai apporté 20%. Il reste 80%. Je ne veux pas être rebelle. Montre-moi comment je dépense. Je ne veux pas faire des choses pour les faire. Qu'est-ce que je fais avec ça? Donne-moi ta sagesse. Il dit, ah mon fils, tu as vu la peinture de ta maison là? Ça n'honore pas Dieu, change là. Quand tu commences à mettre la peinture parce que tu dis, il faut que Dieu soit glorifié. C'est aussi valable que n'importe quelle offrande que tu aurais mis dans le panier de l'église. Parce que tu es en train de glorifier le ciel. Et dit, refais ta coiffure. T'as vu, tu passes là, il y a des odeurs. Refais, manicure, tout ça. Sois impeccable. Et puis les gens de la loi te regardent. Oh, c'est une païenne. Ne portez pas les ornements extérieurs. Non, les ornements extérieurs n'ont pas de valeur quand l'intérieur est sale. Mais si l'intérieur est nettoyé et l'extérieur est sale, c'est un problème. Car quand le fruit mûrit de l'intérieur, il doit se faire voir de l'extérieur. Ah, Est-ce que vous me comprenez? J'ai vu des églises où quand les gens vont en vacances, oh oui, vous êtes là, on vous dit donner, vous ne voulez pas donner, maintenant vous prenez la vie, vous allez en vacances, on va voir, vous allez voir, est-ce que c'est vous qui portez l'avion là? Toi-même tu es vaincu parce que c'est Dieu qui porte l'avion et t'as pas à maudire les hommes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je ne t'ai pas appelé à l'esclavage, mais à la liberté. Quelqu'un dise amen. Quelqu'un me dise amen. Et quelqu'un me dit, mais pasteur, tu as dit la dernière fois que non, on ne doit pas prendre les escaliers, il y aura l'ascenseur. Je dis encore plus loin aujourd'hui. Il y a d'autres d'entre vous qui ne prendraient ni l'escalier avant de prendre ni l'escalier, ni l'ascenseur. Pour être dans au 15e étage, on n'est pas obligé de passer par l'escalier. L'ascenseur t'amène vite. Mais tu peux te retrouver au 15e étage sans escalier ou ascenseur. Ce matin, ce n'est plus l'ascenseur. Comme l'ascenseur vous dérange, j'ai dit, on va vous téléporter. À l'intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien-aimé, je viens vous dire de vivre par la foi. Dis à ton voisin, je vis par la foi. Alléluia. La foi ne respecte pas les limitations naturelles. Allez demander. Écoutez-moi bien. Quand on parle de foi, quand l'eunuque éthiopien a reçu Philippe dans son char, il a pris quel avion? Il a pris le train, il a pris le métro, il a pris Concorde. Comment la Bible dit? Il a été enlevé. Et puis, paf, assis en même temps. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne croyons pas à ce que Dieu est capable de faire. Tu peux sortir d'ici ce matin et demain tu arrives ici avec 3 clés de voiture. Une nouvelle maison. Parce que le ciel a relâché quelque chose sur ta destinée. Est-ce que quelqu'un peut comprendre de quoi je parle? Ne te contente pas d'être dans une institution. Cherche la tête. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oh non, tu es arrivé, ça fait 5 ans. Généralement, on nomme les gens ici quand ils ont fait 15 ans. Moi, je dis à cause de l'onction de Dieu qui est ici. On va te nommer après 1 an. Tu n'as pas besoin d'atteindre 15 ans. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, pasteur, tu es en train d'amener l'église à être paresseux. Non, non, du tout. La loi de la pesanteur dit, tout objet qui est laissé dans les cieux est attiré vers la terre, n'est-ce pas? C'est pour ça que c'est tombé. Mais le vrai problème, c'est que si vous laissez ça en l'air, c'est tellement petit que ça tombe. Mais si vous prenez un Boeing, gros, 5000 tonnes, 15 000, 20 000, il monte, il se suspend pendant 10 heures. Il n'y a aucun problème jusqu'à ce qu'il atterrit. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois qui dépassent les autres. Il y a des lois qui dépassent les autres. Bien-aimé, je ne suis pas venu dans le royaume pour que mes témoignages soient normaux. Non. Il y a des choses qui arrivent normalement. Mais moi, je crois aux choses anormales. Il faut que ce qui m'arrive ne soit pas normal, soit anormal aux yeux des autres. Je prophétise cela sur ta vie par la puissance de Dieu, au nom puissant de Jésus. Ce genre de choses, quand ça arrive, ça rend jaloux même ceux qui ont cru. C'est pas jalousie des païens, j'ai dit à l'église même. Les soeurs commencent à dire, elle se prend pour qui? Tu vois, tellement tu es en train de briller que même les gens qui sont autour, tu deviens un jugement même pour les saints. Les gens disent aux autres, mais vous dites que c'est Dieu en Afrique, mais Wafo, il fait comment? J'ai entendu les gens, mais vous êtes dans la même ville que Wafo? Oui. Mais lui là, non, lui, son histoire là est bizarre. Je ne fonctionne pas avec la loi des autres. Moi, je crois aux choses anormales. Quand Jésus a voulu donner le coup de rattrapage à ses apôtres, pour dire, on a parlé des choses, il y a des choses que je n'ai pas dites. Laissez-moi reparler. Il n'est plus entré par la porte. Tout était fermé. Et puis tout de suite, pouf, il passe par le mur, il entre. Les gars disent, oh, je suis un fantôme. Il dit, touchez-moi. Je ne suis pas un fantôme. Qu'est-ce qu'il était en train de dire aux gars? Pendant longtemps, on a opéré avec les lois naturelles. Maintenant, je vous amène dans le royaume, l'esprit que vous avez reçu. Les gars, allez-y dans une autre dimension. Si la porte est fermée, ne la cassez pas. Passez par le mur. Entrez à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je te vois entrer dans le mur des affaires. Dans le mur de ta promotion et de ta destinée par sa puissance. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Yes! Yes!
Est-ce que quelqu'un comprend? Ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Moi, j'ai eu des sorciers en plein programme qui ont pris des micros et qui ont dit aux gens, c'est un homme de Dieu. On est venu ici, on nous a envoyé pour venir lui faire du mal. Mais, écoutez cet homme, on a vu la lumière sur lui. Même l'enfer témoignera. Je vous garantis. Ce n'est pas des affaires, oh, on a dit il y a deux sorciers dans ça, c'est son problème. Ce n'est pas mes entrailles, ce sorcier va manger ses propres entrailles. Vous comprenez de quoi je parle? Parce que quand je suis chez moi, je prends des décrets. J'appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus. Alléluia. Je règne dans la vie par Jésus-Christ. Donc je ne perds plus dans la dimension de la loi. Je vais au-delà. Je vais au-delà. Dis après moi, au-delà.
Au-delà.
Fais comme ça, au-delà.
Au-delà.
Alors moi, je continue de ce que tu imagines. Dis encore au-delà.
Au-delà.
De ce que tu penses, dis au-delà.
Au-delà.
De ta prière, dis au-delà.
Au-delà.
De ta requête, dis au-delà.
Au-delà.
De ta perception, dis au-delà.
Au-delà.
De tout ce que tu attends. C'est ce qui va t'arriver sur la terre.
Amen.
Que quelqu'un dise Amen trois fois. Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Il y a une dame dans cette salle, un homme te remettra un chèque de grande valeur. Ne refuse pas le chèque parce que tu penses qu'il te drague. Ta mentalité est pourrie. Change-la. Dieu va passer par lui. Ce n'est pas un chrétien, c'est un païen. Il va te donner le chèque et il va disparaître de ta destinée. Et il partira. Vous allez vivre des choses étranges. Je dis bien étranges. J'ai dit des choses étranges à cause de la grâce d'en haut. Des choses étranges vont vous arriver. Dis, je saisis par la foi. Encore, je saisis par la foi. Encore, je saisis par la foi. Que Dieu te garde. Et commence à voir ta société s'étendre. Commence à voir tes projets aller à un autre niveau. Commence à voir ta tente élargie. Commence à te voir à une autre dimension. Commence à te voir à un autre niveau. J'ai dit, c'est terminé. La saison dans laquelle tu te trouves est passée. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. N'oubliez pas qu'Abraham avait 100 ans et Sarah 75. C'est là que Dieu a choisi de faire venir l'enfant. Quelqu'un dit, pasteur, c'est bon pour les autres, mais moi j'ai vieilli dans cette affaire. L'ancien des jours est ici. Ton problème n'est pas plus vieux que lui. Il est encore capable d'agir. Quelle dame qui est ici, qui a fait deux mariages, dans le deuxième mariage, est en train de tanguer. Elle est au deuxième et c'est en train de secouer. Mets-toi sur tes pieds. Ça fait deux mariages, le deuxième est en train de se secouer. Tu es au deuxième, ça secoue, ça tangue. C'est ton deuxième mariage. Je vais prier pour toi. Spécialement parce qu'il ne va pas être ébranlé. Dépêche-toi simplement, tiens dans la salle. Je vais prier pour toi, n'aie pas honte. Amen. Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie et ta destinée. Amen. Au nom suprême de Jésus. En vertu des pouvoirs que le ciel nous a donnés, je déclare sur ta vie. Ah, que les desseins de l'Éternel à ton égard s'accompliront. Aucune chose dans le naturel ne pourra ébranler les desseins arrêtés par le haut conseil de Dieu à ton égard. J'appelle la stabilité dans ta maison. J'appelle la paix de Dieu dans ta maison. Je combats ces esprits qui sont relâchés dans le monde occulte pour t'empêcher de vivre le meilleur de Dieu sur la terre. À partir d'aujourd'hui, au son de ma voix, je déclare que l'affaire est réglée. Je dis l'affaire est réglée. L'affaire est réglée ce matin au nom puissant de Jésus. Tu recevras dans ton cœur les instructions sur ta conduite, les instructions sur ta manière de te tenir, afin de reconquérir les territoires qui avaient été perdus. Dieu dit, tu repoussais les portes de tes ennemis. C'est ça ta portion au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a quelqu'un ici, tu as perdu de l'argent, et beaucoup d'argent. Tu es très découragé, extrêmement découragé. Et je vois deux autres personnes dans la situation d'argent. Vous avez perdu dans les affaires.
Mais il y a une autre qui est vraiment découragée au point où tu ne sais même plus comment est-ce que Dieu va faire. Le ciel me dit ce matin sera ni l'escalier, ni l'ascenseur, mais sera la visitation d'en haut. Venez ici devant, je vais prier pour vous. Dépêchez-vous, je vais prier pour vous. Merci Seigneur. Quelle est cette personne qui a perdu beaucoup d'argent et qui est extrêmement découragée? C'est laquelle parmi vous? Extrêmement découragée. Ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es extrêmement découragé au point où tu ne crois plus que Dieu soit capable de le faire. Roboko, viens de ce côté. Père, au nom suprême de Jésus, je te rends grâce pour ton action dans sa vie. Que toutes les chaînes soient brisées et que la liberté soit manifeste à son égard au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père, je te loue pour ces personnes. Tu les connais. Tu connais les personnes concernées par la parole qui est adressée. Et c'est pourquoi j'envoie cette parole en mission dans leur vie. Et je demande que par ton pouvoir surnaturel, chacun d'entre eux marche dans la pleine liberté que le ciel accorde. Béni sois-tu pour ton œuvre. À toi le règne et la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Et Amen. Merci le Seigneur pour sa fidélité.